Je vous invite à prendre 1 Corinthiens. Je vous invite à prendre 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 9. Nous avons un passage qui est assez long, mais vous allez comprendre pourquoi on a pris tout ce passage-là. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 9, qui nous dit: chapitre 5, verset 9 de 1 Corinthiens, qui nous dit: je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec les autres, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Prions. Mon Dieu, nous voulons te remercier parce que ta parole est simple, nette, claire. Ta parole est sans détour. Elle est droite, elle connaît nos cœurs. Elle sait trancher ce qui vient de notre âme, ce qui vient de ton esprit. Et Seigneur, nous voulons encore que cette parole puisse agir aujourd'hui dans nos vies, agir dans cette église. Car Seigneur, tu es le centre de nos vies. Ta parole est notre vie. Seigneur, que cette vie soit visible en nous, que cette vie puisse, Seigneur, encore briller aujourd'hui. Merci encore, mon Dieu, parce que c'est un beau projet que tu as pour nous. Merci parce que c'est un beau dessein que tu veux faire vivre dans notre cœur. Et je te prie encore aujourd'hui que certains puissent avancer avec toi, que certains puissent grandir, mais que ceux qui ne te connaissent pas aussi puissent te découvrir et te dire « Je te veux, je veux ce Dieu, je veux ce salut, je veux cette vie ». Merci mon Dieu parce qu'un jour tu t'es fait connaître à nous pour que nous puissions dire je veux te connaître, je veux cette vie. Merci pour ton amour, merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore je sais que tu peux le révéler, c'est ta personne. Bénis Seigneur cette assemblée, que nous puissions être des sages et écouter Seigneur encore ce jour. Sanctifie cette prière. Amen. Voilà un texte, 1 Corinthiens 6, qui est la continuité donc de ce que l'on fait depuis le début. On suit dans l'ordre le livre de 1 Corinthiens. Et donc, ce qui est bien quand on suit un livre, c'est qu'on ne choisit pas ses sujets. On prend les sujets que le Seigneur nous donne. C'est le 1. Baisse le 1. Et donc ici, Vous vous rappelez que depuis le début, l'apôtre Paul, fondateur de l'église de Corinthe, rappelle à ses membres ce qu'est une église de Dieu. Qui sont l'église de Dieu? Et la raison pour laquelle il s'adresse à eux, je vais y aller. C'est bon? La raison pour laquelle il s'adresse à eux, il le dit au début de 1 Corinthiens 1, verset 2, je vous le lis, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Une église est composée d'hommes et de femmes sanctifiés en Jésus-Christ. Ce sont ses membres, et chacun de ses membres a pour vocation d'être saint, de vivre dans la sainteté. Et la pratique de chacun de ses membres, c'est d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que parfois on pense qu'être dans la présence d'un bâtiment qui s'appelle Église fait que nous nous disons « Ah ben je suis chrétien ». Ce n'est pas ça qui fait de nous des chrétiens. Les chrétiens, dans le sens biblique du terme, ce sont ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Ce sont ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ. Vous êtes chrétien si Jésus-Christ est votre Seigneur. Vous êtes chrétien s'il vous a sanctifié. Vous êtes chrétien si vous marchez en nouveauté de vie, parce que votre vie a été transformée en Christ. Cette vie nouvelle, cette vie différente, c'est ce qu'on attend de ces Corinthiens, qui sont ici, on l'a vu depuis le début, dans une déroute complète. En effet, ils vivent quoi? Division, désordre. Ils sont là pour satisfaire leur ego, oubliant la base de ce qu'est une église. Ils n'ont pas gardé le fondement, à savoir Jésus-Christ crucifié. Si Jésus-Christ crucifié n'est pas la base, il n'y a rien à construire. Si vous n'avez pas de base, essayez de construire, qu'est-ce qui va se passer? Ça s'écroulera toujours. S'il n'y a pas Jésus-Christ comme base, une assemblée ne peut pas s'appeler église. Église de Dieu. Il n'y aurait pas eu l'église de Corinthe. Et avoir Jésus-Christ comme base signifie prêcher Christ crucifié afin qu'il y ait des vies transformées dans les églises. S'il n'y a pas non plus Christ crucifié qui est prêché, sur quoi bâtissons-nous notre vie? Qu'est-ce qui nous diffère d'ailleurs? Paul dira avec simplicité, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Rien d'autre. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. C'est là où c'est écrit. Et lorsque Paul a voulu enseigner d'autres églises qu'il n'avait pas encore visitées, il a commencé par enseigner Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. On peut prendre en Romains chapitre 3, versets 23 à 27. Voilà ce qu'il enseigne à une église où il n'est jamais venu. Pour être sûr qu'on a la même base. Parce que si on n'a pas la même base, ça va être difficile. Romains chapitre 3, versets 23 à 27. Qui nous dit « Car tous ont péché » et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire ou expiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Voilà une base qui est posée. Sans Jésus-Christ crucifié, nous serons toujours privés de la gloire de Dieu. Il nous serait impossible de nous tenir en sa présence, mais aussi d'avoir pour vocation la sainteté. Car la sainteté vient de Dieu et existe parce que Dieu est dans nos vies. Et cela est vrai dans l'éternité. On ne peut pas être auprès de Dieu dans l'éternité si nous sommes encore privés de sa gloire. Vous ne pouvez pas être à un endroit si vous êtes privé d'accès. Vous ne pouvez pas. Si notre péché nous condamne, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Si nous avons été rachetés Par Dieu, par contre, en Jésus-Christ, nous pouvons entrer. Et la parole de Dieu est claire, Jésus-Christ est le sacrifice qui est propitiatoire ou qui expie le péché pour ceux qui croiraient. Est-ce que vous avez cru? Et si vous ne le croyez pas, vous n'avez pas de sacrifice à offrir pour rentrer. Vous vous présentez devant Dieu et vous resterez dans vos péchés. Et la condamnation qui va avec est toujours sur vos têtes. Vous ne verrez jamais Dieu, ni lui, ni son ciel. Rien ne sert d'essayer par vos œuvres de vous présenter devant Dieu. Comme si vous étiez capable de payer quoi que ce soit pour entrer dans la présence de Dieu, pour rentrer au ciel. Ce que Dieu vous demande, c'est ce qui est écrit là. C'est de prendre son don gratuit, saisissez-le par la foi. Jésus-Christ crucifié pour vous. De sorte que, où est le sujet de se glorifier? Quand on ira au ciel, on ne pourra pas dire, c'est qui le meilleur? Non, on dira tous, je ne mérite pas. Merci Seigneur. Il est exclu, le sujet de se glorifier. Par quelle loi? La loi des œuvres, en essayant de faire beaucoup de choses, en essayant de faire le bien tel qu'on voudrait le faire. Personne ne peut faire le bien tel que Dieu le demande. Le niveau de Dieu, c'est zéro faute. Qui a fait zéro faute ici? C'est impossible. Il n'y en a qu'un qui a fait zéro faute. C'est celui qui nous donne l'accès aujourd'hui. C'est Jésus-Christ, crucifié, qui a payé pour nous. Donc c'est par la loi de la foi. Avez-vous cru que Christ vous donne accès? Croyez-vous que Dieu vous a gratuitement justifié en Jésus-Christ? Si c'est le cas, vous êtes sauvé. Si ce n'est pas le cas, invoquez-le. Et si vous l'avez déjà invoqué, si vous êtes sanctifié en Jésus-Christ, avançons maintenant de cette vocation qui est la sainteté. Gardons la base, Jésus-Christ crucifié, nous éloignons du péché et vivant dans la présence, dans la gloire de Dieu. Dans le texte que nous avons lu, on peut prendre le verset 11 du chapitre 6 en 1 Corinthiens, qui nous parle de cette vie opposée entre ceux qui sont sanctifiés et ceux qui ne le sont pas. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. On peut prendre verset 9, excuse-moi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu, privé de la gloire de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il parle ainsi de nous. Vous avez été. Il y a un passé. Vous étiez là. Il y a un passé. Mais c'est du passé. Je ne sais pas où chacun dans cette église était. Mais vous étiez quelque part là où c'était cité. C'est sûr. Mais vous avez été lavé. Si vous n'aviez pas été lavé, vous serez toujours impur. Mais vous avez été sanctifié. Si vous n'avez pas été sanctifié, vous ne pouvez pas être saint et rentrer dans le royaume de Dieu. Mais vous avez été justifié. Si vous n'aviez pas été justifié, vous serez toujours des injustes. Sinon, vous ne serez pas à Jésus-Christ. Chacune des choses qui ont été citées auparavant devrait être du passé. Que l'on parle de ces pratiques comme des choses abandonnées, débauche, idolâtrie, adultère, efféminés, homosexuels, voleurs, cupides, ivrognes, outrageux, ravisseurs, c'est du passé. C'est comme ça que l'on devrait tous voir la chose. Et avançant dans la sainteté, en direction du royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et toutes ces choses passées doivent disparaître au fur et à mesure. Ils ne doivent plus faire partie de notre vie. Pourquoi? On l'a vu précédemment. Vous vous souvenez de ce verset? Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Est-ce que toutes ces choses qui ont été citées dans le passé peuvent être présentes dans le temple de Dieu? Dans le temple de Dieu, nous sommes censés voir quoi? Un lieu saint. La sainteté. Et c'est dur de comprendre cela parce que la sainteté, c'est de Dieu. Et nous, nous avons une manière de vivre. Mais on doit laisser celui qui habite en nous agir en nous. Appliquer sa justice. Est-ce que nous sommes conscients, nous qui sommes à Christ, que l'Esprit de Dieu habite en nous? Est-ce que de chaque jour, lorsque nous faisons quelque chose, nous disons, dans ma vie, dans mon corps, je sanctifie Jésus-Christ. J'adore le Seigneur qui vit en moi. Si nous étions comme cela, nous ferions plus attention. Et pas simplement dans ces murs, mais dans tous les lieux où nous nous trouvons. Mais les membres de l'église de Corinthe avaient perdu de vue cette base. Ils ont oublié qu'ils ont été lavés, sanctifiés, justifiés en Jésus-Christ pour mener une vie nouvelle, loin de l'injustice. Ils ont oublié Jésus-Christ crucifié. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pratiquaient pas leur religion. Vous savez, ils sont à l'église. Ils viennent à l'église. Mais ce qu'ils font à l'église, ce qu'ils vivent dans l'église, ne correspond pas à ce que Dieu leur a demandé. Ils venaient au culte, ce n'était pas ça le problème, ils prenaient même la scène, il en parlera au chapitre 11, mais ce n'était pas pour changer de pensée, ce n'était pas pour renouveler leur intelligence, ce n'était pas pour chercher le royaume de Dieu, mais plutôt pour ramener leur royaume. Moi, je pense que. Mais lorsque l'on veut vivre Jésus-Christ crucifié, on se dit plutôt, Dieu, que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux que ta parole m'enseigne aujourd'hui? Un petit enfant a dit un jour, « Parle, car ton serviteur écoute. » On lui a appris ça. « Parle, car ton serviteur écoute. » Qu'est-ce que je dois faire? Et non pas, « Voilà ce que j'aimerais faire ici, où est-ce que je pourrais le faire ?» Qu'est-ce que je dois faire? Mais si au lieu d'écouter la parole du Seigneur, nous choisissons notre manière de faire, si nous cherchons non la sanctification, mais ce que nous voulons, il arrivera les mêmes cas que ce qui arrive dans l'église de Corinthe. Et vous avez vu la semaine dernière qu'il y a des cas qui sont graves. Et pourtant, ça se passe où? Dans l'église. La débauche rentrera dans l'église, fera partie même de la norme, mais pas simplement la débauche, mais toute injustice qui par nature est présente dans notre chair. Elle grandira dans l'assemblée. Des pratiques qui auraient dû être derrière nous, la débauche, l'idolâtrie, les adultères, le vol, la cupidité, l'ivrognerie, les outrages, deviendront la norme. Si nous laissons s'installer le péché au lieu de la justice, c'est l'injustice qui sera vue au milieu de nous. Et c'était devenu, comme on l'a dit, le cas d'église de Corinthe. L'église de Corinthe ne savait plus distinguer la justice de l'injustice. Plus personne n'emmenait son frère en Christ devant la justice de Dieu. La grâce et la paix disparaissaient. Et certains emmenaient plutôt leurs frères en Christ devant la justice des hommes. Division et rivalité deviennent la norme. La justice de Dieu, nous l'avons lu. En Romains, sa justice, c'est quoi? C'est Christ crucifié. Et nous allons voir comment l'absence de cette justice nous fait glisser au fur et à mesure vers l'injustice, c'est-à-dire là où nous étions auparavant. On constate quatre dérives lorsque Christ crucifié n'est plus dans l'Église. La première, la sainteté n'est plus notre priorité. La deuxième, la grâce et la paix ne sont plus visibles dans l'Église. La troisième, il n'y a plus personne capable de juger selon la sagesse de Dieu dans l'Église. La quatrième, nous voyons plus les pratiques du monde que les pratiques selon Christ dans l'Église. Au chapitre 5, verset 9, Paul commence par une phrase qui demande une action immédiate, mais qui n'a pas été faite. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. » Il ne parle pas de cette lettre. S'il dit « Je vous ai écrit dans ma lettre », c'est qu'il parle d'une lettre qui était précédente. Donc ce n'est pas la première fois qu'il dit quelque chose aux Corinthiens, c'est la deuxième fois au moins. Vous ne devez pas avoir de relation avec les débauchés. Et donc bien sûr, vous ne devez pas vivre dans la débauche. Mais la sainteté, c'est ce que vous devrez chercher. Mais parmi les membres de l'Église, parmi ceux qui se nommaient frères, il y en avait qui étaient des débauchés. Et verset 11 dit, « Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère et débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne même pas manger avec un tel homme. On pourrait se dire, mais quelle sanction difficile ! Pourquoi ça ? Pourquoi autant de rigueur ? Déjà, il faut comprendre quel risque est-ce qu'il y a d'être avec quelqu'un qui est débauché. Qu'est-ce que la débauche ? Dans le dictionnaire, la débauche est définie comme l'usage excessif ou déréglé des plaisirs du sens. Voilà la définition du dictionnaire, qui n'est pas mauvaise. D'autres traductions de Bible disent, au lieu de débauche, impudique. Donc, ils n'ont pas de pudeur. Et le mot grec original utilise le mot pornos. Il n'y a pas besoin de traduction, on l'utilise aussi encore aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui amène à une sensibilité morale éloignée totalement de la vie de Dieu, mais très proche de ce qu'aiment les hommes. Toutes les relations hors règles illicites. Ces chrétiens avaient donc le plaisir qui avait pris au-dessus de la volonté de Dieu, qui avait pris le dessus sur la volonté de Dieu. Voilà leur manière de vivre sur toute chose. Mon corps est maître de mes envies, mon plaisir avant tout. Ils ne regardent ni à la volonté de Dieu, ni aux conséquences de leurs actes. Et cela crée des divisions, des disputes, des rivalités, non seulement dans l'Église, mais dans les familles, partout où ils vont. Peu importe, c'est d'abord « je veux, je veux, je veux, j'ai envie ». Et c'est ce qu'enseigne le monde d'aujourd'hui. Il faut se décomplexer, laissez-vous guider par vos plaisirs, mettre soi avant le reste. Ne nous étonnons pas donc des résultats obtenus. Cette philosophie n'est pas nouvelle. Elle était déjà annoncée et enseignée du temps des Grecs. Une vie opposée à la sainteté. Et le problème dans cette église, c'est que vous pouvez prêcher Christ crucifié, c'est ce que faisait Paul, mais les gens choisissaient volontairement le péché et ne se cachaient même plus. Écoute, c'est normal, hein, c'est ma vie, c'est permis dans le monde, pourquoi je ne pourrais pas le faire aussi dans l'église ? C'est comme ça que tout le monde fait. Pourquoi je ne ferai pas comme les autres ? Mais la question c'est, pourquoi je ne fais pas comme Dieu demande ? Ils savent qu'ils sont le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en eux, on l'a lu. Mais le temple de Dieu est devenu un lieu où les plaisirs de l'homme sont mis en avant. Un peu comme un hôtel à Las Vegas. Mais avec un écriteau écrit au-dessus, temple de Dieu. Ça existe à Las Vegas, non ? Des temples de Dieu, c'est ce qui est écrit dehors, mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe ? C'est la débauche. Et parfois, nos vies ressemblent à ça. À un temple écrit dehors, mais quand on regarde le programme, bon, qu'est-ce qu'il y a comme activité ? D'abord, débauche. Chacun se donne au plaisir qu'il souhaite, illicite ou non, moral ou non. Ensuite, la cupidité. L'argent avant les âmes. L'argent, c'est mieux que Dieu. Ici, vous ne partagerez pas. C'est juste pour vous. Tout sera à vous. Et vous êtes le centre de tout. De l'idolâtrie, tous les dieux sont permis. L'important, c'est qu'ils nous servent. Pourquoi pas se tourner vers les horoscopes, l'astrologie, tout ce qui est antéchrist, peu importe. L'important, c'est de ramener ce que vous aimez. On peut parler comme on veut. Outrage, insulte. L'outrage, c'est parler mal. Et si on commence dans les églises à parler comme on veut, parler mal des gens, parler mal entre nous, parler avec des mots grossiers, des insultes, quel don ! Ce genre d'église, l'ivrognerie et toute drogue, à quoi sert cela ? À se désinhiber, se décomplexer, remplacer nos soucis par la liberté de faire ce que l'on veut, les plaisirs sans se retenir. Voler, arnaquer, tous les coups sont permis, l'important c'est vous, oubliez les autres, servez-vous. Mais devant c'est écrit « Temple de Dieu ». Et le programme, voilà ce que c'est. Est-ce que vous pensez que c'est le témoignage qui doit être rendu à Dieu, à notre Dieu ? Nous avons un Dieu qui est un Dieu saint. Le temple de Dieu ne doit pas être souillé. Le nom de Dieu ne doit pas être blasphémé. Et l'ordre de Paul, non pas pour condamner ces débauchés, mais pour les sauver, c'est de dire, au verset 11, de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère et qui est débauché. C'est salutaire. Mais nous, on pense que c'est une punition. Le terme avoir une relation avec les débauchés, déjà vis-à-vis de nous, c'est-à-dire se mêler avec. C'est-à-dire vous mélanger, et puis c'est la même chose. Avoir une intimité avec ces personnes. Ne soyez pas intime avec ceux qui vivent dans la débauche. Si nous nous associons avec quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui vit dans le péché, quel sera le témoignage que nous laissons dehors? Ça se passe comme ça chez eux. Ah, je connais cette personne, il est de chez vous, il est avec vous, il mange avec vous, mais sa vie, elle est pire que la nôtre. Nous indiquons aussi à cette personne qui est dans la débauche, c'est pas grave, tu peux vivre comme ça. Dieu t'aimera toujours. Oui, Dieu t'aime toujours. Mais quand Dieu aime, il sauve. Quand Dieu aime, il ne laisse pas privé de sa gloire, privé dans le péché. Voilà pourquoi la séparation est une invitation à dire « change d'attitude, repens-toi ». Nous voulons vivre en communion avec Dieu et avec toi. Mais si tu es dans le péché, si tu demeures, malgré l'avertissement, malgré l'enseignement, c'est que tu as décidé de ne plus être en communion avec Dieu. Et nous, nous voulons rester quoi? En communion avec Dieu. Et toi, reviens en communion avec Dieu. Cette lettre de Paul est un rappel, une deuxième lettre. Paul se répète. Pourquoi il se répète? Parce que le problème n'est pas réglé. Et parfois on se dit, mais la Bible se répète, les enseignements se répètent, tout se répète. Mais pourquoi? Parce que le problème revient toujours. Et ce n'est pas parce que c'est parti une fois qu'on se dit, c'est fini, ça ne reviendra plus. Non, il faut répéter. Et il faut répéter pour viser à ce que l'Église ait son rôle, qu'elle sorte du monde, qu'elle vive dans la sainteté. Et c'est le terme même Église, c'est Ecclésia, hors d'eux, appelé à sortir d'eux. Sortir quoi? Du monde. Sortir d'une vie païenne, sortir de la pratique de ces Corinthiens, de la vie à la Corinthienne. Dans les Actes, les apôtres diront « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Sauvez-vous, ça veut dire quoi? Qu'on prend le temps? Quand quelqu'un se sauve, est-ce qu'il vérifie toutes ses affaires? Est-ce qu'il dit « Attends, attends, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit tout de suite « Ciao, je m'en vais. » Éloignez-vous. Si Christ crucifié était dans la pensée de ces Corinthiens qui vivaient dans la débauche, ils se seraient déjà éloignés du péché. Ils se seraient déjà repentis dès la première lettre de Paul. Mais ces 10 frères semblent préférer les plaisirs à ce que Dieu veut. Mon plaisir avant tout. Et on pourrait croire que dans cette église, ça choquerait les gens. Ils vivent dans la débauche. Il faut reprendre ce frère, ça ne va pas... Non, non. On l'aime, il faut le reprendre. Mais comment ça se passait à Corinthe? Continue de vivre dans la débauche. C'est pas grave, hein? L'important, c'est d'aimer. C'est ça, non? L'important, c'est d'aimer. Que chacun fasse ce qu'il veut. Laissons-le tel qu'il est. Ce sont les mêmes pensées de toutes les gens qui disent « On ira tous au paradis. » Ah, Dieu aime tout le monde. Il fera rentrer tout le monde au paradis. L'important, c'est d'aimer. Moi, je ne pense pas que laisser quelqu'un vivre dans quelque chose qui le détruit, ça s'appelle aimer. Vous pensez que laisser quelqu'un vivre dans quelque chose qui le détruit, ça s'appelle aimer? Quand vous voyez quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui est en train de finir, ivre mort, dehors, par terre, écrasé, vous dites, c'est bien, il a une belle vie. Non, vous essayez de le relever. Vous les essayez à ce qu'il sorte de là. Et Dieu a donné le moyen pour sortir de là. Jésus-Christ crucifié. Alors désolé, si à chaque fois, nous devons ramener chacun vers Jésus-Christ crucifié, parce que c'est ça aimer, parce que c'est l'amour que Dieu nous a donné, Jésus-Christ crucifié. La solution pour être en communion avec lui, c'est Christ crucifié. Il n'y a rien d'autre à penser, rien d'autre à amener. Mais parfois, nous devons décider, comme il est dit ici, de ne même pas manger avec un tel homme, pour lui faire comprendre qu'il n'y a pas de communion possible entre nous. Reviens au Seigneur et vivons dans la communion avec Dieu. Mais dans cette église, il n'y avait plus de repentance. La grâce et la paix, on ne la voyait plus. On critiquait beaucoup les gens du monde. Mais au milieu d'eux, vous l'avez vu la semaine dernière, c'était pire, pire que dans le monde. Et c'est fort de dire ça, c'est-à-dire que dans une église, on voit des choses pires qu'à l'extérieur. Mais pourtant, dans les églises, on est toujours là après à dire que le pire se trouve où ? Dehors. Le problème, c'est toujours les gens qui sont dehors. Mais que nous enseigne la parole de Dieu au verset 12 ici ? Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Et que dit le verset 13 ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est Dieu qui juge les païens. C'est Dieu qui nous a déjà jugés. Lorsque nous n'avons pas cru, nous étions déjà jugés, nous étions privés de la gloire de Dieu. C'est le jugement, on ne peut pas faire pire. Hein. Mais nous, le jugement que nous devons apporter à ceux qui ne sont plus privés de la gloire de Dieu, qu'ils reviennent à Dieu. Qu'ils abandonnent le péché. Dans le monde, c'est normal d'être entouré de débauchés, de cupides, d'idolâtres, d'outrageux, d'ivrognes, de ravisseurs. On ne devrait même pas être étonné en disant oh, « Mais pourquoi est-ce qu'ils font comme cela ?» C'est normal. Ils n'ont pas Christ dans leur vie. On ne peut pas leur demander plus que ce qu'ils sont capables de faire. Mais nous, nous devons témoigner que nous pouvons vivre plus que ce qu'ils sont capables de vivre. Est-ce qu'il y a une différence entre eux et nous ? Nous avons Christ dans notre vie. Si nous n'avions pas Christ, nous serions comme eux. Pas différents. On n'est pas meilleurs. C'est dur. Mais il faut amener le jugement dans la maison de Dieu pour témoigner de Dieu. Ôtez le méchant du milieu de vous. Voilà le jugement de Dieu. Amener le jugement de Dieu dans toute la vie d'église, dans les décisions que nous partageons. Amener le jugement de Dieu pour amener la paix au milieu des frères et sœurs. On peut prendre la suite, au chapitre 6. Où on voit qu'il y avait un problème de ce côté-là. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints ? On peut lire jusqu'au verset 4. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et que nous jugerons et ne nous jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie ? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous preniez pour juge. Voilà un souci qui encore continue dans cette Église, c'est qu'il n'y a plus personne capable de juger selon la sagesse de Dieu. Plus personne n'est capable de discerner ce qui est bien ou ce qui est mal. Plus personne n'est apte à prononcer la justice de Dieu et chacun va qu'à ses activités, ses occupations, déléguant les jugements aux gens de l'extérieur. Donc au jugement extérieur, à la justice des hommes. Il dira au verset 5, il n'y a pas de quoi être fier, il dit, je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Une église de je ne sais combien de personnes, il y a combien d'hommes sages capables de prononcer un jugement ? Pas un seul. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ crucifié a disparu. Ils ne savent plus juger les choses. Ils n'ont plus de notion de justice. C'est une honte. Pour prononcer un jugement entre les frères, il est dit, hein, il faut un homme comment ? Sage. Pour ceux qui viennent aux cellules, on a étudié Jacques. Comment on sait qu'une personne est sage ? Est-ce que vous vous souvenez ?
Écoute, oui, ça c'est vrai.
On peut le lire, hein, Jacques chapitre 3, verset 13. Souvent, quand on dit qu'une personne est sage, moi je dis toujours, on prend toujours l'exemple des vieux monsieur avec barbe, cheveux blancs, qui parlent beaucoup et qui dit voilà l'expérience que j'ai vécue dans ma vie. Mais là, il va dire autre chose. Verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Comment on va discerner ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'il parle, qu'il montre toute sa connaissance, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais dans cette église, la bonne conduite n'existait plus. Chacun se conduisait comme il lui plaisait. Aucun n'usait de sagesse, il n'y avait plus de douceur, on l'a vu depuis le début, division, rivalité, dispute. Où est la douceur ? Plus rien de tout cela. Et si vous voulez reconnaître des personnes sages, regardez leur manière de vivre. Regardez leur conduite. Regardez comment ils avancent avec le Seigneur. Est-ce qu'ils sont à l'écoute, comme l'ont dit les ados, Que le sage écoute, hein, on l'a lu tout à l'heure. Mais s'ils écoutent, ils agiront forcément, conformément à ce que la parole dit. Mais il n'y avait plus personne identique à ce qui est écrit là pour prononcer des justices, des sentences, pour prononcer ce qui est juste au milieu des frères. Alors ils ont fait appel à quelqu'un qui avait de la sagesse. Les gens de Chloé sont allés voir qui ? Paul. À Paul, il n'y a plus personne. Il va falloir que tu interviennes. Paul qui est en... je ne sais pas où, au loin, qui doit intervenir dans une église où il y a des tas de gens, mais plus personne n'est capable. Et Paul qui doit encore renvoyer une deuxième lettre. Paul qui doit encore revenir, mais quand même, il est loin. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'église qui était capable de le traiter. Pourquoi ? Parce qu'ils ont abandonné le fondement qui était laissé. Et lorsque nous abandonnons et nous n'obéissons plus à la parole, lorsque nous ne mettons plus notre vie devant Christ crucifié, la sagesse fait défaut. On n'agit plus selon Dieu, mais on est même d'accord avec la manière d'agir du monde. Alors pourquoi ne pas laisser le monde juste rendre justice au milieu de nous ? Ils sont même plus sages que nous au final. Parce qu'eux au moins, ils n'ont pas dit « je viens à Christ pour vivre la même chose qu'ils vivaient auparavant ». Alors que nous, nous avons décidé de vivre autre chose pour vivre au final la même vie qu'auparavant. C'est encore pire. Lorsqu'une église n'a plus Christ crucifié, ce sont les pratiques du monde qui sont beaucoup plus visibles que les pratiques selon Dieu. Chacun regarde à soi et personne n'est prêt à sacrifier ou à se dépouiller de quoi que ce soit. Au verset 7 de 1 Corinthiens chapitre 6, il va résumer un passage qu'il vient de dire. Il dit « C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. » Il y a déjà un défaut. Si vous avez des procès les uns avec les autres, ça ne devrait pas exister. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? Dans un temple, qu'est-ce que l'on fait ? Est-ce que l'on se sert de ce qui s'y trouve ou on vient apporter des sacrifices ? Est-ce qu'on se dépouille de ce que l'on a ou on vient dépouiller tous ceux qui se trouvent à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'on fait dans un temple ? C'est une énigme. On vient offrir des sacrifices. On vient se dépouiller. Un sacrifice, ce n'est pas quelque chose dont on n'a plus besoin. Parfois, les gens, ils pensent que « Bon, c'est quoi mon sacrifice ? Oh, il y a un truc qui traîne dans ma poche. Hop, tiens, je le donne. » Ah, j'ai un peu de temps là. Ah, je le donne. Ah, je. C'est pas ça un sacrifice. Un sacrifice, c'est j'avais besoin. Mais je le donne. C'est ça un sacrifice. Et quand Dieu demandait des sacrifices dans l'Ancien Testament, il disait pas donnez-moi l'agneau le plus moche, celui qui a vraiment rien du tout, qui ressemble à rien. C'est ça que vous allez m'offrir. Il demandait quel agneau ? Sans tache. Sans défaut. Sans défaut. C'était lequel alors ? Le plus beau. Celui qui à vos yeux était le plus. Précieux. Mais ici, on n'arrive même plus à offrir quelque chose qui soit pour l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, c'est d'abord les âmes qui sont à sauver. On préfère rentrer en conflit avec les gens. Tout le contraire de ce que Jésus-Christ a fait dans cette vie. Celui qui est saint ne commet plus le mal envers Dieu. Celui qui est saint ne commet plus le mal envers son prochain. Il accepte de sacrifier sa vie pour le bien des autres, tel que demandé par Dieu. Pour le salut des autres, tel que demandé par Dieu. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas qu'il nous soit demandé de nous dépouiller. Et dans la Bible, il vous sera toujours demandé de vous dépouiller. Mais ici, on n'accepte pas. Pourquoi on ne veut pas souffrir pour quelque injustice ? Ça ne nous dérange pas que Christ et souffert pour toute injustice, mais nous, on ne veut pas souffrir. Pourquoi ? Pour quelque injustice. Pour une chose qui va nous faire souffrir pendant combien de temps ? Toute une vie ? Quelque chose qui va nous tuer ? Quelque chose que l'on va juste perdre pour un temps. Mais nous sommes tellement plus attachés à ce que nous voulons qu'à ce que Dieu veut, que nous ne sommes même plus capables d'offrir des sacrifices tels que Dieu nous demande. Vous connaissez ce passage en Philippiens 2, qui nous parle de Christ qui s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas été dépouillé, hein. Il s'est dépouillé, dit le passage, lui-même. Il est devenu serviteur alors qu'il était quoi? Il était Dieu. Il était le roi des rois. Pourquoi il se serait dépouillé si ce n'était pas pour le salut de chacun d'entre nous présents dans cette pièce? Mais il a regardé quoi plutôt? Notre cas. Il a regardé notre salut. Il a regardé nos besoins dans notre vie, ce besoin de passer de la mort à la vie, plus important que ses droits. Mais pourtant, il avait les droits. Sommes-nous prêts à nous dépouiller de nos droits pour nos frères et sœurs? Sommes-nous prêts à nous dépouiller de nos droits pour le bien, pour le salut des âmes? Sommes-nous prêts à nous dépouiller de nos droits pour faire paraître Christ crucifié dans nos vies? Christ crucifié, c'est Christ qui s'est dépouillé. Et nous, que verrons-nous les autres dans notre vie? L'église de Corinthe ne savait plus vivre ni distinguer la justice de l'injustice. Christ crucifié n'était plus vécu dans l'assemblée. Ils avaient perdu le basique de la vie chrétienne. On ne voyait plus la justice de Dieu, on l'a dit au début, mais la grâce et la paix commençaient à disparaître. L'église revenait plutôt à la justice des hommes, la division, la rivalité, la norme, là où ils étaient auparavant, leur norme. Mais ma question pour chacun d'entre nous ici est, quelle est notre norme? Dans notre vie, quelle est notre norme? Sur quoi basons-nous notre manière de vivre? Sur nos plaisirs ou sur Christ crucifié? Quelle est la norme aussi dans notre Église? Lorsque nous prenons des décisions, quelles qu'elles soient, est-ce que nous la basons sur la parole de Dieu, sur Christ qui a donné les instructions, ou la basons-nous sur ce que nous estimons que est-on bon et juste? Quel jugement apportons-nous? Sachez juste une chose, la parole de Dieu a toujours ramené et ramènera toujours à Christ crucifié. Depuis la Genèse, elle ramène toujours au même endroit. Chacun d'entre vous qui avez cru, vous avez été lavé, sanctifié, justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Mais pourquoi? Pour quelle vie? Que nos jugements, que nos décisions soient basées sur l'Esprit de Dieu. Lui qui a su exercer un jugement juste envers nous, continuant d'exercer un jugement identique, celui de Dieu. L'Esprit de Dieu n'agit jamais différemment de la parole de Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous enseignons ces choses, nous sommes sûrs et certains que cela vient de celui qui les a données, de Dieu. Si Dieu demande une chose de notre part, éloignez-vous, que devons-nous faire? Nous éloigner. Si Dieu nous demande « approchez-vous de moi », approchons-nous de lui. S'il nous demande de laisser nos péchés, laissons nos péchés, même si on ne comprend pas tout toujours, tout de suite. Mais lorsque l'on vit ce que Dieu demande, nous vivons tous les bénéfices qu'il y a dans le royaume de Dieu. La volonté de Dieu, l'évangile de Dieu, c'est d'amener les injustes vers la justice de Dieu. Amener des pécheurs, on l'a chanté, à être libérés, libérés du péché. De devenir des justes capables de marcher dans la sainteté. Voilà ce qu'est l'évangile. Croyez-vous que Dieu vous a donné cette capacité aujourd'hui? Avez-vous cru? La capacité d'être saint car il est saint. Si Dieu habite en vous, c'est possible. Vous avez un héritage qui est le royaume de Dieu. Alors honorez cet héritage. Honorez sa présence dans votre vie. Honorez son royaume. Laissez derrière vous toutes les pratiques de ce monde, la débauche, c'est-à-dire l'addiction ou le plaisir, la cupidité, les addictions morales, les convoitises, l'amour de l'argent, l'idolâtrie, chercher d'autres dieux à suivre, les outrages, les insultes, notre bouche qui devient une source de condamnation, mais non plus de salut, l'ivrognerie, toutes les addictions physiques, une dépendance, le vol, que nos mains servent à travailler maintenant, n'essayons plus d'arnaquer les gens. C'est ce que Dieu nous enseigne dans toute sa parole. Ne restons pas tels que nous sommes, cherchons toujours à ramener nos vies à la croix de Christ. Restons en communion avec Dieu. Vivons à l'exemple de Christ, nous laissons nous faire dépouiller pour en amener d'autres à venir à cette croix avec nous. C'est la communion entre les frères et sœurs. Que Christ crucifié soit notre justice et que sa paix soit notre vie. Amen. Prie. Seigneur, lorsque nous lisons ta parole, nous comprenons toute l'injustice qui vit dans notre corps. Nous comprenons, Seigneur, que lorsque nous souhaitons des choses, lorsque nous ne te consultons pas, c'est le péché qui est amené. Et Seigneur, ce n'est pas parce que cette église de Corinthe se date d'il y a 2000 ans que ce n'est plus le sujet du jour. Lorsque nous lisons ces paroles, Seigneur, nous voyons que nous pouvons voir cela autour de nous. Mais Seigneur, que ces choses disparaissent par contre du milieu de nous, car c'est ta volonté. C'est ce que ta parole nous donne d'être capable de vivre, Seigneur. Que nous puissions être différents, parce que tu nous as rendus différents. Que nous puissions être appelés enfants de Dieu et vivre comme des enfants de Dieu, à ta ressemblance. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné Christ, Christ crucifié, notre salut, notre vie. Et Seigneur, nous ne voulons rien d'autre. Nous voulons que Christ paraisse dans tout ce que nous faisons. Pardon Seigneur pour les fois où nous nous écartons, pour les fois où nous regardons à ce que nous désirons avant tout. Seigneur, rappelle-nous toujours cette croix, rappelle-nous toujours ta volonté, rappelle le prix de notre salut. Merci Seigneur parce que tu nous as donné les moyens, tu nous as donné la scène, tu nous as donné l'enseignement de ta parole, la prière, tu nous as donné Seigneur encore la communion fraternelle pour nous rappeler tout cela. Que notre Église puisse vivre en toute et en pleine communion. Merci en tout cas parce que toute personne présente ici, c'est selon ta volonté. Que chacun puisse repartir avec sa part. Je voudrais aujourd'hui vous interpeller sur la part que vous avez reçue. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne saviez pas ce que Dieu voulait. Et dans ce monde, vous viviez comme tous les autres. Mais vous voulez dire, je veux sortir de ce monde. Je veux vivre non plus selon ma vie, mais selon la nouvelle vie que Dieu peut me donner. Une vie droite, une vie dans la sainteté. Vos péchés ont été payés à la croix. Si vous croyez aujourd'hui, vous serez sauvés. Si vous voulez que l'on prie pour vous, vous pouvez prier dans vos cœurs, mais si vous voulez aussi qu'on prie pour vous, vous pouvez lever la main et l'on priera pour vous. On priera simplement ce que Dieu a promis, la vie éternelle pour ceux qui ont cru, une vie différente. Mais si vous avez déjà tous cru, alors avancez. Avancez avec le Seigneur, c'est sa volonté, c'est ce que nous avons lu. Changez votre vie, venez toujours sacrifier ce qui est inutile, ce qui doit être enlevé pour suivre le Seigneur. Merci parce que Christ le permet. Seigneur, oui, je te remercie. Je te remercie parce que tu connais chaque personne, tu connais les cœurs, tu connais chaque âme. Bénis chacun. Fais-toi connaître à chacun. Grandis dans leur vie, Seigneur, qu'ils puissent avoir cette vie pleine de toi. Merci encore, mon Dieu, parce que tu nous reprends chaque jour. Nous sommes loin de cette ligne d'arrivée et nous voulons encore aller plus loin avec toi. Gloire te soit rendue, mon Dieu, en tout cas, parce que dans cette église, nous pouvons encore prononcer ta parole. Nous sommes libres, Seigneur, d'annoncer l'Évangile. Que cet évangile puisse être lu, entendu, enseigné encore pendant des années. Et que nous puissions, Seigneur, témoigner autour de nous, là où nous sommes. Bénis le reste de ce culte et que toute la gloire, voilà, te revienne, comme il est dit. Pour nous, la gloire est exclue, mais elle est entièrement pour toi. Merci, mon Dieu, sans Christ cette prière. Amen. Laisse ta place.